La Fédération biologique du Canada est heureuse de vous présenter la série Les balados de la grappe bio, qui vous présente les chercheurs qui mènent les activités de recherche de la grappe scientifique biologique 3, un projet de 5 ans qui inclut 27 activités de recherche en agriculture biologique au Canada. Bonne écoute! Bonjour, ici Nicole Boudreau de la Fédération biologique du Canada. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'interviewer 3 chercheurs de l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Il s'agit de Caroline Côté, chercheure et coordonnatrice du secteur biologique à l'IRDA, Annabelle Firvège, docteur en biologie, chercheur en entomologie à l'IRDA, et Maxime Lefebvre, docteur en sciences végétales et professionnel de recherche en malherbologie à l'IRDA. Bonjour Caroline, bonjour Annabelle, bonjour Maxime.
Bonjour.
Bonjour.
Le nom de votre activité de recherche dans le cadre de la grappe scientifique biologique 3 est élaboration d'un système de production de jeunes pousses biologiques, une approche multidisciplinaire. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons 3 chercheurs pour cette activité de recherche. Nous avons Caroline, Annabelle et Maxime. Alors, pourriez-vous décrire le rôle spécifique de chacun d'entre vous?
Oui, bien sûr. Bon, au niveau de la coordination du projet en général, c'est notre équipe, là, c'est Caroline qui parle. On souhaitait donc avoir une approche multidisciplinaire. On a des gens qui travaillent en régie de l'eau avec Carl Boivin et son équipe. Au niveau du contrôle des insectes, on travaille donc avec Annabelle Firvège et au niveau du contrôle des mauvaises herbes avec l'équipe de Maryse Leblanc.
Et Maxime Lefebvre, qui est dans l'équipe de Maryse Leblanc?
Oui, c'est ça.
On sait que les jeunes pousses, c'est un produit que les consommateurs recherchent de plus en plus. Alors, quels sont les défis reliés à la production de jeunes pousses en agriculture biologique?
En fait, la production conventionnelle est déjà très importante au Québec au niveau des jeunes pousses. Il y a une demande très importante de la part des consommateurs pour des produits biologiques. La production des jeunes pousses se fait en terre noire, qui est déjà un type de sol où la production biologique au Québec est beaucoup moins importante. Donc, on a voulu assembler les équipes ensemble pour développer une régie, s'assurer que, en faisant certaines interventions, on trouve les meilleurs compromis pour à la fois fertiliser les cultures et contrôler les ravageurs.
Donc, quelle est votre approche pour le contrôle des ravageurs dans le cadre de cette activité-là?
On a en place 2 sites expérimentaux. Un premier qui est en place depuis déjà 5 ans. Ce sont des sites de longue durée pour bien voir l'effet de nos pratiques à long terme, ce qui est particulièrement important en agriculture biologique parce qu'on va venir moduler, par exemple, les communautés microbiennes dans les sols, la fertilité de notre sol avec le temps. Donc, on a un de nos sites qui est en place depuis 5 ans, qui a été en production de carottes pendant 2 années, puis en production de jeunes pousses, de laitue et d'épinards depuis les 3 dernières années, où on applique des cultures de couverture différentes, soit selon les traitements, soit l'avoine, le pois ou sans culture de couverture. Et pour chacune de ces cultures de couverture-là, on va évaluer différentes approches de fertilisation, donc des applications de granules de fumier de poulet, du compost ou un contrôle qui ne reçoit pas ces fertilisants-là. Au niveau des cultures de couverture, c'est important de le considérer dans nos pratiques, particulièrement en production en terre noire, parce que ce type de sol-là est très, très sujet à l'érosion par le vent. Il y a des pertes de sol qui se font à long terme et par oxydation aussi de la matière organique. Donc, nous, on a intégré les cultures de couverture pour voir leur effet potentiel aussi sur les insectes ou les mauvaises herbes qui pourraient être présentes en cours d'année de production. Et là-dessus, on a évalué les rendements et différentes approches de contrôle des ravageurs. Pour le deuxième site, il est en place depuis 2 ans. On y fait la production de laitue et de roquettes. Les cultures de couverture qu'on a évaluées, c'est le seigle, un mélange avoine-sarrasin et un contrôle. Et toutes les parcelles sont fertilisées de la même manière. Donc, on peut peut-être revenir au premier site pour aller plus en détail, là.
Donc, la différence entre les deux sites, c'est que ce sont des cultures de couverture différentes et des pousses différentes, c'est ça?
Oui, dans le deuxième site, on a toujours la production de laitue, mais on a aussi une culture de roquette. Comme la saison de production des jeunes pousses est très courte, on parle d'environ 3 semaines, ça laisse le loisir de faire 2 ou 3 cycles de production à chaque année. Donc, dans notre cas, on parle de laitue et d'épinards sur un de nos sites et dans l'autre site, on a la laitue et la roquette.
Quels sont les principaux prédateurs ravageurs par rapport aux jeunes pousses parce qu'elles ont un cycle de production relativement court? Alors, quelles sont les principales sources de. Quels sont les principaux nuisibles pour ce type de culture?
Le contrôle des mauvaises herbes est sûrement un défi très important dans ce type de production-là, mais aussi le contrôle de certains insectes. Donc, je vais laisser la parole à peut-être Maxime pour commencer, pour qu'il nous parle un peu de ce qu'ils ont fait au niveau de l'évaluation des populations de mauvaises herbes.
Oui, donc dans le premier site expérimental, là, notre rôle était sensiblement d'évaluer les populations de mauvaises herbes qui étaient établies en fonction des différentes cultures de couverture et facteurs, modes de fertilisation. Puis les espèces qu'on retrouve là, dans ces sites de reproduction-là en terre organique, c'est sensiblement le pourpier potager, tabouret des champs, chénopode blanc. C'était les espèces qui nous ont... qui étaient très présentes, qui pouvaient donc potentiellement diminuer les rendements s'il n'y avait aucune intervention.
Puis quelles sont vos stratégies pour combattre les mauvaises herbes?
En fait, les stratégies ont plus été évaluées dans le deuxième site expérimental où là, les objectifs principaux étaient vraiment d'optimiser tout ce qui était intervention au niveau des faux semis, du moment où les buttes sont préparées et jusqu'où la culture va être semée. Donc, on a tenté d'optimiser la technique qu'on appelle des faux semis, donc un travail de sol et pour stimuler la germination des mauvaises herbes pour ensuite les détruire. L'objectif ici, c'est d'amoindrir là, les mauvaises herbes qui vont s'établir dans la culture. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évaluer l'efficacité de différents équipements de travail de sol, notamment le sarcleur à cage et la RC-trille. On a aussi regardé l'évaluation d'un bioherbicide à base d'acide acétique pour voir si on pouvait limiter la présence des mauvaises herbes lorsque le sol n'est pas travaillé, donc il n'y a pas de nouvelle stimulation d'émergence des mauvaises herbes. Donc, c'est des outils qu'on a tenté d'évaluer l'efficacité et voir par la suite comment les mauvaises herbes s'implantent dans la culture.
Mais si je comprends bien, donc, votre stratégie, c'est de faire germer les mauvaises herbes, les détruire et ensuite de planter vos jeunes pousses.
Exactement. Puis, parallèlement à ça, on tente de bien comprendre quelle espèce germe à quel moment dans ces interventions-là. Parallèlement au site 2, on a des parcelles où on tente de modéliser donc la levée des mauvaises herbes plus précisément pour comprendre, suite à un travail de sol, en quelle proportion chacune des espèces va germer. Et l'optique derrière ça, c'est vraiment de bien planifier nos interventions de faux semis pour soit sauver du temps ou amoindrir les populations de mauvaises herbes qui seraient présentes dans les cultures.
Mais comme vous êtes, juste une remarque, comme vous êtes en terre noire et que la terre noire est plus volatile, alors est-ce que le travail du sol, j'imagine que vous faites un travail minimal justement pour compenser, pour éviter d'avoir des problèmes d'érosion, ou est-ce que ça peut contribuer à l'érosion, le travail du sol sur une terre noire?
En fait, on travaille, lorsqu'on fait des faux semis, c'est un travail qui est très, très superficiel dans les 2-3 premiers centimètres, et le but, c'est seulement d'aller arracher ou recouvrir les petites plantules de mauvaises herbes qui s'établissent. Et c'est sûr que le but derrière tout ça, c'est si on peut ne pas travailler le sol à une reprise, si les modèles nous diraient que c'est pas nécessaire, eh bien, ça serait tout à l'avantage des producteurs là, en termes de coûts d'opération là, puis d'efforts de désherbage.
En fait, c'est quand on comprend bien à quel moment et comment intervenir, c'est justement là qu'on réduit le nombre d'interventions. Du même coup, indirectement, on vient favoriser la conservation des sols. Ouais. Parce que les pratiques du faux semis, c'est une pratique qui est déjà pratiquée par les producteurs. Mais l'idée, c'est de comprendre de quelle manière et à quel moment intervenir le mieux possible pour réduire les interventions qui représentent aussi des coûts pour les producteurs.
Annabelle Firlège, vous êtes entomologiste. Quel est votre rôle pour cette activité de recherche-là?
Oui, dans le fond, moi, mon rôle, c'est vraiment de trouver des stratégies pour gérer les insectes ravageurs des cultures de jeunes pousses. On a une problématique au niveau biologique, c'est que bon, la tolérance est très faible au niveau de dommages. Par exemple, on va essayer de limiter les dommages pour que, en fait, au-dessus de 5 %, ça commence à être très important en fait pour la production de jeunes pousses biologiques. Donc, il faut rester en bas de 5 % de dommages sur les jeunes pousses. Il y a différentes manières en fait de faire, de stratégies en fait possibles. Ça dépend beaucoup de la culture. Par exemple, dans les deux sites qu'on avait, on avait des productions d'épinards et dans le deuxième site, production de roquettes. C'est pas les mêmes produits biologiques qui vont être homologués pour lutter contre les différents ravageurs. On a quand même un panel assez important de ravageurs. On parle d'altis, on parle de trips, de pucerons, de chenilles défoliatrices, de punaisternes. Donc, c'est quand même un gros pool d'insectes qui peuvent venir bien endommager les jeunes pousses. Donc, par exemple, en épinard, il n'y a pas de produit de biopesticide homologué pour la culture de l'épinard pour le principal problème qui est l'altis à tête rouge. Donc, on est allé avec une stratégie qui est d'utiliser des plantes trappes. Une plante trappe va venir attirer un insecte plus que la culture commerciale. C'est ce qu'on recherche, en fait. Donc, on va essayer de sélectionner des plantes qui sont très, très attirantes plus que l'épinard. On a donc testé sur ce site-là, durant la production d'épinards, donc de 3 à 4 semaines, différents mélanges de plantes. Donc, on parle ici d'amarante, de colza, de moutarde. Mais on est aussi allé un peu dans l'innovation en testant des plantes ornementales parce qu'elles ont un attrait, en fait, pour l'altis à tête rouge naturelle. On parle ici de coréopsis, de zinnia et de chrysanthème. Donc, on a établi un système expérimental qui permet de tester ces différents mélanges et de voir l'attirance qu'a l'altis à tête rouge pour ces différents mélanges. Donc, ce premier projet-là a permis, en fait, de montrer que les mix floraux, donc de chrysanthème, coréopsis, zinnia, sont très, très attractifs pour l'altis à tête rouge plus que les autres mélanges qu'on avait testés. L'idée, à la base, est d'essayer d'exploiter cela dans le futur.
Oui, non, mais c'est intéressant parce que, dans le fond, vous avez vous favorisez la biodiversité et en même temps, ça vous fait un joli jardin, comme on dit.
Oui, c'est un joli jardin qu'on utilise, en fait, pour détourner le ravageur. Dans le deuxième site, pour la roquette, on est allé avec une approche complètement différente qui était, en fait, de tester différentes stratégies. Le pourquoi, c'est que la roquette, pour cette culture-là, on a des biopesticides qui sont homologués, mais on veut quand même diminuer leur utilisation pour éviter en fait des problèmes de résistance. Donc, on a finalement comparé une régie avec des biopesticides à une régie qui est mixée, c'est-à-dire qu'on peut utiliser certains biopesticides, mais on utilise aussi des ennemis naturels. Les ennemis naturels ont quand même un pouvoir très, très important pour manger certains ravageurs, certains insectes. Et l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même qu'ils aient un temps pour s'installer. Donc, 4 semaines ou 3 semaines, c'est quand même court pour une production. Mais on a relevé le défi de finalement voir quels agencements d'ennemis naturels pouvaient être intéressants pour ce type de culture. Donc, on a introduit des acariens prédateurs, des œufs de chrysope, par exemple, qui est un insecte qui va à son stade larvaire, manger plein d'insectes à corps mou, comme les pucerons, les trips, etc. Donc, on a comparé ces différents modes de régie, de lutte pour les insectes dans le cadre de la roquette. Et l'idée est de pouvoir donc donner aux producteurs un peu une solution si, en fait, ils ont intérêt à moins utiliser les biopesticides et tout en restant en deçà des dommages économiques qui sont des 5 %.
Donc, finalement, une jeune pousse, même si sa vie au champ n'est que de 2, 3 à 4 semaines, a quand même, les prédateurs ou les ravageurs ont quand même le temps de s'y intéresser et de développer une prédation, finalement.
Oui, il y a des prédateurs qui sont quand même à développement rapide, qui vont être très, très actifs. Donc, souvent, par exemple, les acariens sont très, très mobiles. L'idée, c'est un peu donc de voir leur comportement et où on les introduit, d'être le plus stratégique possible. Mais on peut quand même miser, même sur un 3 semaines, sur l'effet des ennemis naturels. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant.
Mais au niveau de la production de jeunes pousses biologiques au Québec, est-ce que c'est la première expérience qui est menée au Québec ou...
Au niveau des insectes ravageurs et donc des méthodes de contrôle, oui, c'est la première expérience qui a été menée. Il y a des expériences qui se font à la ferme. Les producteurs eux-mêmes sont très innovants, testent des choses, mais c'est pas forcément rendu public. Mais de notre côté, au niveau entomologique, oui, c'est les premières expériences.
Et vous bénéficiez de l'appui d'un producteur du Québec important, Vers Nature, qui se spécialise en ce moment dans la production conventionnelle de jeunes pousses, mais qui voudrait orienter sa production vers la production biologique, en fait. Alors, c'est parce que le marché se développe, est en croissance. Alors, est-ce que les résultats de votre recherche sont concluants, comment un producteur qui demain matin va décider de produire des jeunes pousses, comment pourrait-il intégrer et appliquer les résultats de votre activité?
Il y a plusieurs activités d'information qui sont réalisées. Il y a un partenariat aussi dans ce projet-là avec l'équipe de Phytodata qui travaille de très près avec les producteurs en Terre Noire aussi. Donc, il y a différents moyens, des publications écrites, des conférences et un travail qui est réalisé en collaboration avec les gens de Phytodata, mais aussi avec le producteur agricole. On a travaillé de façon très étroite avec les experts de l'entreprise. Et souvent, ce que je dis, c'est que la meilleure façon de convaincre un producteur, c'est la meilleure personne pour convaincre un producteur, c'est un autre producteur. Donc, je pense que quand on travaille comme ça, dès le démarrage du projet, dès l'élaboration avec les producteurs, ça facilite beaucoup le transfert.
Ça facilite le transfert, mais au niveau de, je vais dire, mettons, un producteur devra se procurer des armées de prédateurs ou de ravageurs pour lutter contre les ravageurs de ces micro-pousses ou?
Ben là, c'est différentes stratégies qui sont évaluées dans le cadre de ce projet-là. Naturellement, la considération économique est toujours présente dans nos esprits et très présente aussi chez nos partenaires. Alors, la gestion de tout ça, faut trouver le meilleur compromis pour la productivité, les coûts que ça représente aussi, et toujours dans le respect de l'environnement. Donc, c'est des stratégies qu'on évalue présentement. Quand il n'y a pas, par exemple, quand on n'a pas de pesticides de biopesticides qui est homologué, ben il faut trouver des alternatives. C'est un peu ce que Annabelle décrivait tout à l'heure pour le contrôle des insectes.
Et finalement, pour conclure, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à entreprendre une recherche en agriculture biologique? Qu'est-ce qui vous passionne au sujet de ce type de production?
L'agriculture biologique nous ramène aux bases de la pratique agronomique. Faut bien comprendre les systèmes qui sont en jeu. Dans ce cas-ci, on n'a pas toujours, en production biologique, on n'a pas toujours les outils qui vont nous permettre de corriger rapidement une problématique. Par exemple, une carence en éléments nutritifs, si on pense à l'azote, par exemple, on ne peut pas utiliser des fertilisants de synthèse. Alors, il faut se constituer des réserves, il faut y penser à l'avance. Le défi est très intéressant. Tout à l'heure, on parlait de contrôle des mauvaises herbes et de contrôle des insectes, ben il faut comprendre les interactions, pourquoi cet insecte-là est présent et comment on peut le réprimer En n'ayant pas toujours l'outil qui va nous permettre d'intervenir rapidement. C'est l'évaluation de systèmes. Et je dirais que c'est un peu ça qui nous a incité à fonctionner en multidisciplinarité, parce qu'on veut pas, par exemple, utiliser une culture de couverture qui favoriserait la présence d'un ravageur dans notre champ, ou qui ferait en sorte qu'on pourrait, par exemple, avoir plus ou moins de mauvaises herbes. Donc, c'est ce qui nous a motivés à travailler en équipe, puis toujours en collaboration avec notre partenaire industriel. C'est important d'avoir des interventions qui vont pas créer un autre problème, ou d'être conscient que ça peut aider aussi à d'autres questions. Une culture de couverture, ça peut récupérer des nitrates qui autrement se retrouveraient dans l'environnement, mais ça peut aussi compétitionner avec des mauvaises herbes. Donc, pour nous, c'est important de considérer le système de protection sous tous ses angles.
Alors, les producteurs et les consommateurs seront sûrement heureux d'appliquer les activités, les résultats de l'activité de recherche menée par Caroline Côté, Annabelle Firlège et Maxime Lefebvre, tous trois de l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Merci. Au revoir.